France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'affaire Mary Bell ou la fabrication d'un monstre. En 1968, deux petits garçons de 3 et 4 ans sont retrouvés morts à Newcastle, en Angleterre. La police ne tarde pas à mettre la main sur le coupable et découvre avec effroi qu'il s'agit d'une jeune fille de 11 ans. Elle s'appelle Mary Bell. Pourtant, elle est une petite fille qui ressemble à toutes les autres, dont on attend, comme de toutes les autres, l'innocence, la gentillesse. Mais elle a tué et elle est incapable du moindre remords. Alors, elle devient aux yeux de l'Angleterre tout entière rien de moins que l'incarnation du mal. Une journaliste britannique, Gita Serini, assiste au procès de cet enfant. Elle en ressort intriguée. Tout de même, elle a dû en vivre des choses terribles, cette gamine, pour en arriver là, se dit-elle. Oui, mais quoi ? Près de 30 ans après l'affaire, Gita Serini retrouve Mary Bell. Elle veut écrire un livre sur son histoire pour tenter de répondre à la question que personne à son procès n'avait voulu se poser. Comment une si jeune fille est-elle devenue une meurtrière ? Notre invitée aujourd'hui, Caroline Eliashev, psychanalyste et pédopsychiatre, également scénariste de 3 films de Claude Chabrol, La Cérémonie, Merci pour le chocolat et La Fleur du Mal. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
C'est un jour de novembre 1995 dans une ville du nord de l'Angleterre. Autour d'une table, dans un bureau, sont assises deux femmes. Serini, une journaliste de 74 ans, Gita Serini, et une femme de 38 ans qui s'appelle Mary Bell. Le bureau dans lequel elle se trouve est celui d'un agent de probation, parce que Mary Bell est en liberté conditionnelle depuis 15 ans. Pour ma mère, vous étiez le diable, vous savez, lance Mary. Elle disait que vous aviez écrit un livre rempli de mensonges. Gita la regarde. Mary a les mêmes yeux bleus, les mêmes cheveux noirs que la première fois qu'elle l'a vue. À l'époque, elle avait 11 ans. Gita, 47. Depuis, Mary a passé 12 ans en prison et Gita est devenue une journaliste connue comme la spécialiste des forces du mal qui parfois colonise l'humain. C'est elle qui a recueilli les confidences d'Albert Speer, ministre d'Hitler, son architecte, et c'est le Franz Stangl, commandant du camp d'extermination de Treblinka. Sa mission, traquer l'origine du mal. Gita Serini a écrit un livre sur Mary en 1972, 23 ans plus tôt. Mais la mère avait fait obstacle, et la journaliste n'avait pas trouvé tout ce qu'elle cherchait. Si Mary Bell et Gita Serini se rencontrent ce jour de novembre 1995, c'est parce que Gita veut écrire un nouveau livre. La mère de Mary vient de mourir, elle ne sera plus là pour empêcher la journaliste de comprendre ce qui est arrivé. Mais il faudra donner beaucoup de vous-même, prévient-elle. Parler de choses insupportables. Mary le sait et elle dit « Je veux parler de la façon dont tout ça est arrivé, reprendre toute l'histoire depuis le début ». Le premier rendez-vous a lieu 6 mois plus tard, chez Gita Serini, qui écrit.
Je ne savais pas précisément à quelle heure elle arriverait à Londres. Mais la veille, en début de soirée, elle avait téléphoné depuis la gare pour annoncer qu'ayant suffisamment d'argent, elle prendrait un taxi et qu'il était inutile de venir la chercher. C'était la dernière fois que je l'avais entendue avant qu'elle n'arrive le lendemain matin, à 11h. Épuisée. Une énorme valise et 4 sacs plastiques remplis de papiers et de photos à la main.
Et pour cause, Marie a passé la nuit dehors, sous des porches. La journaliste lui ouvre, constate son état déplorable. Elle lui fait couler un bain, la met au lit, et Marie ne commence à parler que le soir venu. Mais elle est incapable, tout comme la journée suivante, de parler d'autre chose que de son enfant. Car elle a une fille, oui, de 11 ans, et précisément 11 ans. C'est l'âge qu'elle avait en 68, quand elle a tué deux petits garçons. Nous sommes alors en juin 96. Et avant de fouiller dans ses souvenirs, Mary veut montrer à Gita qu'elle n'est pas comme sa mère et qu'elle aime sa fille, elle. Le travail peut ensuite commencer. Gita Serini lui remémore leur rencontre 28 ans plus tôt.
J'ai vu Mary Bell pour la première fois le 5 décembre 1968 au tribunal de Newcastle upon Tyne où se tenaient les assises. Marie, 11 ans, et son amie Norma, de 2 ans plus âgée, étaient sur le banc des accusés pour le meurtre de 2 petits garçons. Marie était petite à l'époque, beaucoup plus petite que l'autre fillette, et très jolie. Elle avait des cheveux bruns courts et des yeux d'un bleu intense.
3 coups secs résonnent dans la salle comble du tribunal de Newcastle. On n'entend plus que les petits rires des 2 accusés, couverts par l'huissier de justice qui annonce l'arrivée de la cour. La salle se lève, les avocats font signe à leur cliente de faire de même. Elle s'exécute en regardant autour d'elle, désemparée. Le président entre. À ses pieds devant lui, les accusés font 2 têtes de moins que tout le monde, parce que ce sont 2 petites filles de 11 et 13 ans. À côté de Mary, il y a en effet sa voisine, Norma. Les 2 habitent Newcastle, au nord de l'Angleterre, une ville qui, en 1968, détient de tristes records. Criminalité, alcoolisme, chômage, tout y passe. Les mines de charbon fermées, les chantiers navals aussi. Et dans cette ville morose, Scotswood, le quartier de Mary, on l'appelle la ruelle des rats. Des maisons insalubres et des terrains vagues. C'est précisément dans une maison abandonnée et sur un terrain vague qu'au mois de mai, puis qu'au mois de juillet 68, ont été découverts les corps de Martin Brown et de Brian Hove, 4 et 3 ans, étranglés. Sur le ventre du second, Brian Hove a été gravée une lettre N, ou peut-être M. N comme Norma, M comme Mary. La police avait remonté leur piste. Mary avait dessiné le corps de sa première victime dans un cahier que son instituteur avait trouvé. Puis Norma et elle avaient écrit des mots qui revendiquaient carrément le deuxième meurtre. Elles avaient ensuite essayé de s'enfuir en Écosse parce qu'elles voulaient vivre avec les chevaux, manger des carottes et creuser des trous sous terre pour s'abriter. Ces 2 petites filles avaient tué avec une légèreté terrifiante. Elles avaient 11 et 13 ans et en 1968, en Angleterre, les plus de 10 ans sont jugés comme des adultes. Brian Roycroft, délégué à la protection de l'enfance à Newcastle, se souvient du procès.
Comme c'était un crime très grave, c'est passé par les procédures normales, avec audience publique, avocat de la défense, avocat de la partie civile, etc. Tout cela était concentré sur 2 petites filles, avec des cheveux noirs et de grands yeux qui semblaient découvrir le monde. C'était complètement inadapté à la situation. Les enfants ne pouvaient pas réagir correctement. Il n'y avait aucune chance pour que ce procès soit équitable.
Derrière Mary et Norma sont assises leurs familles. Les parents et les grands-parents de Norma lui tiennent la main et la consolent quand elle pleure. Ses 10 frères et sœurs l'accompagnent tous les matins devant la salle d'audience et la retrouvent au même endroit tous les soirs. Mais la petite Mary, elle, n'a pas le même soutien. Derrière elle, il y a Billy, son père, et Betty, sa mère, que tout le monde a remarqué. Elle porte une perruque blonde de travers, sanglote ostensiblement, prend la main de sa fille quand les journalistes regardent, lui donne des coups de coude et lui pince le bras quand personne ne la voit. Chaque jour, se souvient Mary, j'ai pensé que quand je rentrerai chez moi, elle me battrait à mort. Brian Roycroft, de la protection de l'enfance, ajoute.
Les 2 petites filles étaient très différentes. Marie était très intelligente et maligne et répondait aux juges de façon très fine. L'autre petite fille n'était pas aussi intelligente et était complètement déstabilisée par le procès. Et la cour a distingué les 2 petites filles en disant « Celle qui est intelligente doit être coupable et l'autre non. »
Jeudi 12 décembre 1968, le juge s'adresse à Mary. « Mary, dit-il doucement, est-ce qu'on t'a parlé de Dieu ?»« Oui, monsieur. »« Et sais-tu ce que c'est que la Bible ?»« Oui, monsieur. »« Bien. Et si tu prends la Bible et jures devant Dieu de dire la vérité, qu'est-ce que tu crois que ça signifie ?»« Qu'il faut dire la vérité, monsieur. »« Très bien, reprend le juge. Elle peut prêter serment. » Et ainsi, toute la journée, Mary est interrogée. Mais dans un procès pour meurtre en son titre en Angleterre, on ne cherche pas à connaître l'accusé, à identifier ce qui, dans sa vie, a bien pu dérailler pour qu'il en vienne à tuer. Non, non, on s'en tient aux faits. Et les faits accablent Mary. Le premier petit garçon, elle l'a tué seule, en l'étranglant. Pour le deuxième, son amie Norma est impliquée, sans qu'on comprenne qui de Mary ou de Norma a tué. Mais Mary semble avoir été la meneuse et Norma a suivi le mouvement. C'est donc Norma qu'on prend en pitié et Mary qu'on accable. Le procureur dit d'elle qu'elle est anormale, vicieuse, cruelle, avec une dose de ruse diabolique. Le psychiatre la traite de psychopathe. La presse écrit qu'elle est une tarée de naissance, une mauvaise graine, un monstre de nature. L'avocat Norma concède, on est tenté de la décrire comme le diable. Mais ce n'est pas sa faute si elle est née. Dans la salle, Gita Serini a le sentiment que si cet enfant a tué, ça n'a rien de diabolique. C'est qu'il a dû se passer quelque chose de grave dans sa courte vie. Là où tous voient le mal, elle voit la détresse. Elle répond à la Radio Botanique en 1997.
Quand je regardais cet enfant dans ce tribunal d'adultes, entouré par tous ces gens, tout ce que je voyais, c'était une petite fille qui était profondément perturbée et qui avait dû vivre des choses terribles. Elle ressemblait beaucoup, dans ses réactions, dans ses expressions, à certains des enfants que j'avais vus en 1945 à Dachau, quand j'y étais entrée avec l'armée américaine. Leurs visages, leurs réactions aux adultes ressemblaient à celles de Mary Bell en 1968.
Quand Mary parle à Gita de sa première victime, elle secoue toujours la tête. « Je n'avais pas l'intention de le tuer pour toujours, » dit-elle. « Je crois que pour moi, c'était « En fait, il sera rentré à temps pour le goûter. » Et elle ajoute « Ce dont j'avais le plus peur, c'était que les avocats racontent que je m'étais battu avec une fille et que je l'avais traitée de prostituée. » Qu'il me demande alors comment je savais ce qu'était une prostituée. » Dans ses propos un peu mystérieux, un peu confus, Gita Serini fait un lien et la relance. Vous aviez peur qu'on vous demande si vous connaissiez ce mot à cause de votre mère, hein? C'est ça? Marie hausse les épaules. Je ne me souviens pas si je me le suis formulé comme ça. Le mardi 17 décembre 1968, à 14h15, le jury revient avec le verdict. Norma est jugée non coupable. Marie, elle, coupable des deux homicides. La voilà reconnue comme la seule meurtrière, et sa complice Norma est acquittée. La mère de Mary éclate en sanglots. Tous la regardent d'un air gêné, tant ses pleurs sonnent faux. Le juge condamne l'enfant de 11 ans à la réclusion à vie et clôt le procès par ces mots. L'enfant Mary Bell peut être emmené.
I noticed you.
Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
De 11 à 23 ans, Mary Bell ne connaît rien d'autre que l'enfermement. Mais, dit-elle à Gita Serini, même si j'étais enfermée, c'était comme s'il y avait un but précis, car on s'occupait de moi. Partout où elle passe, elle fascine les éducateurs, les gardiens, les directeurs. Pas parce qu'elle a tué deux enfants ou qu'elle est la plus jeune, non. C'est bien plus que ça. L'un de ses professeurs en prison explique. Elle porte en elle une intensité extraordinaire, une sorte de manque que personne ne peut vraiment ni combler, ni même comprendre. Mary avoue, pendant ses 12 années d'incarcération, elle n'a pas eu la moindre idée de ce qu'elle faisait là. Elle était dans le déni. En particulier, elle répétait son innocence du premier meurtre, celui de Martin Brown. En prison et longtemps après, les rares fois où elle en parle, elle change de version, toujours pour faire croire aux autres, et surtout à elle-même, que la mort de Martin Brown est un accident. Pourtant, avoue Mary, il y avait une petite idée qui grandissait en moi. En 1976, à 19 ans, elle écrit une lettre à deux de ses anciens éducateurs.
J'essaie de parler, mais j'ai construit un mur autour de moi. Et puis l'énormité absolue de mon crime m'est soudain apparue. Le fait que j'ai réellement pris une vie. Je ne peux tout simplement pas supporter d'y penser, même un tout petit peu. Je sais que ça s'est passé il y a longtemps. Beaucoup de larmes ont coulé, mais l'amertume a grandi. Je sais aussi dans le fond de mon cœur que je n'ai pas pu faire une chose aussi affreuse volontairement. Je ne peux me rappeler exactement ce qui s'est passé. Avez-vous déjà éprouvé le sentiment d'avoir peur, mais sans savoir de quoi ? C'est ce que je ressens. Effrayée, mais je ne sais pas de quoi. Je veux être seule, mais j'ai peur d'être seule. Vous savez, j'étais avec une fille ici. Elle est partie maintenant. Un jour, elle m'a dit quelque chose qui a failli me faire pleurer. La veille de son départ, elle m'a dit « Si je pouvais faire une chose sur cette terre, je te redonnerai ton enfance. Pardonnez à ceux qui vous tourmentent, parce qu'ils n'ont pas voyagé assez loin au royaume de la compréhension. C'est mon ami qui m'a dit ça. Avec amour, comme toujours, Marie. »
La seule personne qui rend visite à Mary en prison, c'est sa mère, Betty. Elle vient une fois par mois. Et parlons-en. Betty, c'est la clé. Mary se jette dans ses bras dès qu'elle la retrouve. Mais le docteur du centre pour mineurs remarque qu'après chaque visite, la jeune fille est agressive. Elle se bat, elle ment, elle est vulgaire. Tout cela, dit Gita Serini, c'est le docteur qui me l'a dit. Alors, Mary soudainement se met à pleurer. Elle secoue la tête. C'est ce qu'elle fait quand elle est en détresse. Et elle dit, entre ses sanglots, je ressentais toujours un sentiment de malaise avec elle, ma mère. Quelque chose que je n'identifiais pas dans le fond de l'estomac. Souvent, quand elle s'asseyait, je pensais, oh non, je n'ai pas envie qu'elle soit là. Elle n'est pas comme une mère. Elle ajoute,
Elle venait tout le temps, tous les mois, parfois deux fois par mois pendant la première année. Elle m'a toujours dit que j'étais mauvaise. Elle était là, catholique jusqu'au bout des ongles, les seins par-ci, les seins par-là, et le péché, le péché, le péché, et... Bon, vous savez ce qu'elle avait été. Mais c'est vrai, à ce moment-là, c'était terminé. Elle était devenue respectable. Elle a dit un jour à M. Dixon, le directeur du centre, de ne jamais me laisser seule avec elle, parce qu'elle avait peur de me tuer. Elle préférait me tuer que de me voir là. Je me suis dit que tout devait être ma faute.
Le psychiatre qui l'a suivi en prison se souvient que Mary disait de sa mère qu'elle n'était pas à la hauteur et qu'elle ne lui a jamais donné d'affection. Et pour cause, Betty vendait des informations sur sa fille. Pendant le procès, elle avait proposé au Sun et au People, deux tabloïdes, de couvrir l'événement. Et puis elle vendait des photos au News of the World, un autre tabloïde, montrait de fausses lettres de Mary, de faux poèmes. Mary prend alors un air songeur et dit à Serenity, oui, elle a gagné sa vie en étant ma mère. En 1972, Betty Bell répond à une invitation de la télévision britannique. Elle porte la perruque blonde qu'elle avait au procès.
Betty, dites-vous que votre fille est innocente ?
Non, je ne dis pas qu'elle est innocente.
Mais quelque chose a dû la pousser à faire ça ?
Oui, c'est possible que quelque chose l'ait poussée à faire ça.
Qu'est-ce qui, dans sa vie ou dans sa famille, a pu la conduire à faire ça ?
Peut-être les disputes entre mon mari et moi. Je ne sais pas.
Qu'est-ce que vous ressentez ? Du désespoir ?
Du désespoir, oui. De l'accablement, de l'anxiété et du chagrin aussi, pour ma fille.
Lui parliez-vous de ce que vous aviez fait ? Demande Gita Sereni. J'ai essayé une fois, répond Mary. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi je l'ai fait ? Ma mère a répondu avec cette voix dure qu'elle prenait souvent. N'en parle pas, n'en parle jamais à personne. Alors elle a couru vers la porte avec sa perruque blonde qui volait, et je ne l'ai plus vue pendant des mois. Et c'est en prison que Mary apprend que celui qu'elle croit être son père ne l'est pas. Et quand sa mère vient la voir, Mary lui demande « Dis-moi, allez, est-ce que c'est ton père ? Est-ce que c'est ton frère ? Est-ce que c'est pour ça que je suis devenu ce que je suis devenu ?» Betty répond « Tu es la progéniture du mal, voilà ce que tu es. » Quelques mois plus tard, 11 ans après avoir été mise en prison, après avoir connu la violence sexuelle, l'humiliation et la camisole chimique, après avoir tenté de se suicider, commencé petit à petit à admettre qu'elle avait tué Mary Bell, demande alors la liberté conditionnelle. Elle écrit une lettre au juge.
J'ai pris une vie, mais pas de la façon sauvage dont la presse a parlé. À 10 ans, je ne comprenais pas le sens de la mort. Ce qui m'est arrivé aurait pu arriver à n'importe quel enfant de mon âge dans le même contexte. La semaine précédente, j'avais vu par hasard à la réception une carte de Noël de mon père qui ne m'avait jamais été donnée. Et j'avais appris que ma grand-mère était décédée. Toutes ces choses ont commencé à s'accumuler et j'ai pensé « Je suis enfermée et je n'ai jamais fait l'expérience d'aucune vie. Je ne sais même pas de quoi parlent les autres filles quand elles arrivent ici. » Parce que je n'ai jamais été nulle part, ni fait quoi que ce soit. Peut-être ne pensez-vous pas que je mérite ma liberté, mais je ne veux pas passer le reste de ma vie en prison. Je veux simplement être libre. Donnez-moi une chance de l'être.
En 1980, après 12 ans d'enfermement, Mary, 23 ans, sort. C'est arrivé d'un coup, se souvient-elle, au moment où je passais la grille, je crois. Dehors, je me suis senti comme jeté dans le vide. Suivent des années d'errement où toutes ses ambitions professionnelles sont contrariées par ses agents de probation. Elle a voulu travailler dans une crèche, on le lui a bien évidemment interdit. Elle a voulu faire des études pour devenir professeur, on lui a refusé nouveau, forcément, des enfants. Et puis, elle est pourchassée par les médias, qui ne l'ont pas oublié. Elle reste bannie de la société pour ce qu'elle a fait quand elle avait 11 ans. Seule éclaircie dans sa vie, la naissance de sa fille en 1984, 4 ans après sa sortie de prison. Nous sommes en 1996 et Mary se confie à Gita Sereny depuis plusieurs mois maintenant. Elle est particulièrement bavarde sur son passage à la prison bestiale, de ses 16 à ses 23 ans. Mais Gita Sereny l'avait prévenue dès le début. Ce qui l'intéresse, c'est son enfance. Et ce jour-là, Mary lui dit « D'abord, vous me dites ce que vous avez appris. Après, moi, je vous dirai. » Alors, Gita Sereny lui dit ce qu'elle sait. Elle raconte à la Radio Botanique en 1997.
Avant d'écrire le premier livre, j'ai pu passer un peu de temps avec les sœurs de Betty Bell. Et avec sa mère, la grand-mère de Mary qui est maintenant morte et que Mary adorait. Elles m'ont raconté des choses que Betty Bell avait faites. Mary est née quand Betty avait 17 ans. Quand on a voulu la mettre dans ses bras, la première chose qu'elle a dite, ça a été « Débarrassez-moi de cette chose ». Et ce n'était pas juste une réaction post-natale. Elle voulait vraiment se débarrasser de cet enfant.
Quand Gita Sereny lui raconte sa naissance, Mary réplique « Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on aurait dû la débarrasser de moi, vous ne croyez pas ?» Puis la journaliste continue la triste liste. Quand Mary a un an, sa mère lui donne des médicaments et elle finit à l'hôpital. Un an et demi plus tard, elle tente de la donner à des amis de la famille. Oui, de la donner, pas de la confier. À 3 ans, Mary est empoisonnée par d'autres médicaments que sa mère a glissés dans des Smarties. Et elle échappe de justesse et de nouveau à la mort quand sa mère tente de la jeter par la fenêtre. Puis sa tante la récupère chez des inconnus à qui Betty l'avait de nouveau donné. Mary interrompt l'inventaire et demande d'un air triste « Pourquoi ne m'ont-ils pas laissé avec cette gentille dame qui voulait un enfant ?» Puis elle fronce les sourcils et continue. Pour Betty aussi, ça aurait été une chance. Ça l'aurait arrêté. Sereny connaît également l'activité de Betty Bell. C'était une prostituée avec une spécialité, le sadomasochisme. Elle proposait à ses clients de les fouetter, de les étrangler. Mais il y a une chose que la journaliste ne savait pas. La première fois que Mary en parle, c'est en juin 96, 2 semaines après le début de leurs entretiens. La dernière fois, c'est à la toute fin, en décembre. Après des mois, les souvenirs finissent par émerger, plus clairs, plus précis. Quand elle en parle, elle transpire, elle pâlit, elle pleure. Elle devient parfois mutique, mais quand elle parvient à s'exprimer, elle parle au présent. Alors elle dit « Je ne vais pas encore à l'école. » Là, elle a 4 ou 5 ans. On la fait asseoir devant un lit sur lequel se trouve sa mère et un homme. On la force à regarder. Puis on s'en prend à elle. Mary fait partie de la prestation. Elle est violée par sa mère et ses clients. Et ce n'est pas un souvenir isolé, l'horreur s'est répétée. Mary respire profondément. Elle se souvient de la chambre, remplie de crucifix, de rosaires. Elle continue à déterrer ses souvenirs. D'une main, ma mère tire ma tête en arrière. De l'autre, elle serre mes mains derrière mon dos. Je lui dis « Ça fait mal ». Elle me dit doucement « Ça ne va pas faire mal longtemps ». Mary se faisait étrangler par sa mère et par des hommes. Gita Sereny écrit « Ce fut l'un des pires moments de nos entretiens ».
Je ne la croyais pas parce que c'était trop horrible. Je n'avais jamais entendu quelque chose d'aussi terrible. J'ai appelé un éminent psychiatre et je lui ai demandé est-ce qu'elle pourrait mentir. Et je lui ai décrit ses réactions physiques. Après avoir raconté cette histoire, Mary était dans un tel état que je l'ai mise au lit. Elle a pleuré, pleuré, sangloté pendant des heures. Et quand je suis entrée, elle était trempée de la tête aux pieds. Elle avait mis sa tête dans un oreiller. L'oreiller était tellement trempé que je l'ai jeté. Et le psychiatre m'a dit, il est absolument impossible de simuler cette réaction-là.
Après, dit Mary, j'avais le sentiment que ma mère m'aimait parce que j'avais un cornet de frites et que je n'étais pas battue. À 4, 5, 6 ans, désespérément en recherche d'un amour maternel qui ne se manifeste qu'après les services qu'elle subit, Mary en vient se prostituer, seule. Alors Gita Sereny lui demande « Votre mère n'était pas au courant ?» Mary lâche dans un rire moqueur « Oh, elle me demandait l'argent !» Puis vient l'année 68. Mary est amie avec sa nouvelle voisine, une petite fille qui s'appelle Norma. Cette année, le numéro 1 du top 50 est une chanson qui s'appelle Puppeton String, pantin au bout d'un fil, que Mary chante à tue-tête toute la journée, chez elle, dehors, dans tout son quartier, et qui dit la chanson. Je me demande si un jour tu me diras que tu m'aimes. Si tu me dis que tu m'aimes follement, je rappliquerai immédiatement comme un pantin au bout d'un fil. Mary se souvient d'une tension chaque jour plus étouffante. Betty est souvent à Glasgow, elle mène ses affaires. Quand elle rentre, elle fond sur Mary comme une furie. Elle se souvient en particulier d'un jour où Betty avait manqué de la noyer dans la baignoire. 2 ans plus tard, Gita Serini recevait une lettre. C'était un poème écrit par Mary. Et ce poème, Gita lui montre.
Maman, je sais que dans mon cœur, autrefois avec toi, mon amour pour toi grandit davantage chaque jour. Quand tu viens me voir, maman, je pleure dès que tu es partie. Je regarde dans tes yeux, si bleus, et ils sont si tristes, même si tu essaies d'être si gaie. Mais je sais que tu me crois mauvaise, une enfant devenue criminelle célèbre. S'il te plaît, maman, rassure mon petit esprit. Dis-le au juge et au jury à genoux. Ils écouteront tes cris suppliants. La coupable, c'est toi, pas moi. Je suis désolée que ça doive être comme ça. Ces derniers mois, je te le dis, au nom de papa et moi, dis-leur que tu es coupable. S'il te plaît, alors, maman, je serai libre.
À mesure qu'elle découvre ses vers, Mary se décompose. Mais mon Dieu, dit-elle, je n'ai jamais écrit ça. Au tour de Gita Serini d'être surprise. Ce poème, elle était persuadée que c'était Mary qui l'avait écrit. Mais cette dernière reprend affolée et dit, mais comment a-t-elle pu écrire ça, elle? C'est Betty. Gita Serini découvre que c'est donc la mère de Mary qui a écrit ses vers et qu'elle lui a avoué de manière détournée que la coupable, c'est bien elle. Les entretiens touchent à leur fin. 28 ans après, Mary n'a toujours pas avoué qu'elle a tué Martin Brown. C'est étrange. Des 2 meurtres, elle oublie complètement le deuxième, celui de Brian Howe, qu'elle a commis avec Norma. Non. Celui qui la traumatise, c'est le premier, celui de Martin Brown, celui qu'elle a commis seule. Chaque fois que la journaliste en parle, Mary se met en colère, prend son visage dans ses mains, se laisse submerger par ses émotions. Alors Gita la ménage, lui prépare du thé, la laisse fumer une cigarette. Les remords qui avaient commencé à l'effleurer à 18 ans ont été décuplés en 84 à la naissance de sa fille, quand Mary s'est rendue compte qu'elle avait privé des parents de leur enfant. Mais Gita estime que cet aveu doit être le point final de leur travail. Alors elle insiste. Et Mary finit par associer ce qu'elle appelle le jour de Martin Brown à une dispute avec sa mère. « Je me rappelais même pas, dit-elle d'une petite voix, que ça s'était passé la veille de mon anniversaire. »
Ce matin-là, elle m'a envoyé chercher une brosse. Quand je suis arrivée au magasin, je ne savais pas si elle voulait une brosse à cheveux ou une brosse tout court. Mais j'avais trop peur pour retourner lui demander. Je me suis dit qu'elle voulait un balai-brosse et je suis revenue avec ça. Elle a enlevé le manche et elle a commencé à me frapper avec. J'ai crié, espèce de putain, et je lui ai donné un coup de poing dans le ventre. Elle m'a frappée, elle a continué pendant que je dévalais les escaliers et je suis sortie. C'était la première fois que je lui tenais tête. La première fois que je l'insultais et que je lui rendais ses coups.
Nous sommes en décembre 96, plus d'un an après la rencontre dans le bureau de l'agent de probation. Mary est chez Gita. Le moment est venu. La journaliste débranche le téléphone, ferme la fenêtre, tire les rideaux. Mary s'assoit, met les mains sur ses genoux. Puis, lentement, en marquant de longues pauses, commence le récit au présent, de la façon dont, 28 ans plus tôt, elle a tué Martin Brown. Je suis dans le jardin de la maison abandonnée, dit-elle, les yeux fermés. Martin est là. Je lui prends la main, je lui fais monter les escaliers. Il pleure. Il aurait pu courir, loin de moi. Mais il ne l'a pas fait. Il est là, dans le coin, près de la fenêtre, debout, le dos contre le mur. Je lui dis, mets tes mains autour de mon cou. Et il le fait. Je mets mes mains autour de son cou et j'appuie, j'appuie. Quand sa mère étranglait Mary, elle lui disait « Je ne vais pas te faire de mal, ça va aller ». Dans la maison abandonnée, quand elle enserre le cou de Martin Brown, Marie lui dit « Je ne vais pas te faire de mal, pas pour de vrai ». Mary est maintenant complètement penchée en avant, elle tremble. Guita continue. Essayez de m'expliquer ce que vous avez ressenti. Mary se redresse, regarde dans le vide et dit « C'est comme une lumière qu'on éteindrait sans qu'on ait su qu'elle était allumée. C'est comme un train derrière vous, et il faut continuer à marcher, mais il n'y a pas de bruit, pas même vos propres battements de cœur. C'est comme des eaux boueuses. » En 1982, Mary Bell rencontre un jeune homme de 18 ans, l'âge qu'aurait eu Martin Brown, sa première victime. 2 ans plus tard, elle a une fille avec lui, qu'elle élève, les 11 premières années de sa vie loin de sa mère. Jusqu'en décembre 1994, quand Betty propose à sa fille de passer Noël avec elle. Mary accepte. Betty n'a que 56 ans, pourtant elle ressemble à une vieille dame. Elle n'a plus beaucoup de cheveux, mais elle n'a pas mis sa perruque. La fille de Mary, qui rencontre sa grand-mère pour la première et la dernière fois, la fait rire. C'est cela dont Mary se souvient, l'entendre rire. C'était incroyable. Betty est morte quelques jours plus tard. Après l'enterrement, Mary entre dans l'appartement de sa mère. Elle s'assoit, dans le silence, puis déclare à Guita Sereni « Je crois que j'espérais seulement, comme une caresse invisible sur ma tête. » Mais rien n'est venu.
I just gotta tell you.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui, l'affaire Mary Bell, illustrée par la chanson de John Lennon, Mother, composée juste après la séparation des Beatles. Notre invitée pour parler de cette affaire Mary Bell, Caroline Eliashev, bonjour.
Bonjour.
Psychanalyste et pédopsychiatre, également scénariste de 3 films de Claude Chabrol, hein, La Cérémonie, Merci pour le chocolat, et La Fleur du Mal, juste un petit détour par le cinéma, justement. Chabrol était passionné par les faits divers et ce qu'ils peuvent dire de l'être humain. Hein. Il s'en est inspiré pour beaucoup de ses films, Violette Nozière, Les Sœurs Papin, avec là aussi une meneuse et une suiveuse, hein, dans Les Deux Sœurs. Et l'histoire de Marie Bell aurait intéressé Chabrol, j'imagine.
Peut-être, mais je pense qu'il ne s'intéressait pas beaucoup aux petites filles. Non. Il s'intéressait aux meurtrières, mais pas aux petites filles.
Bien, alors, on va aller dans le réel, dans cette histoire. Après les meurtres, Mary laisse une série d'indices qui la désignent. Alors, première chose, comment interprétez-vous cela, déjà, d'emblée?
Écoutez, le problème de cette petite fille n'était pas du tout de cacher son crime, mais au contraire de faire sur un enfant ce qu'elle avait vécu. Et donc, probablement, elle avait le projet inconscient de révéler ce qu'elle avait vécu. Sa mère, comme vous l'avez très bien expliqué, a essayé de la tuer 4 fois, lui mettait les mains autour du cou, etc., etc. C'est-à-dire qu'elle répétait sur cet enfant ce qu'elle avait vécu pour le faire savoir, pas pour le cacher, pour le faire savoir.
Et là, c'est très différent, évidemment, des motivations qu'on peut voir chez certains criminels. Je rappelle que la gamine a 11 ans quand elle...
Tout à fait.
Donc, on n'est plus du tout dans la même configuration. Et évidemment, en découvrant l'histoire de Mary Bell, on finit par se demander... Alors, on ne se demande pas si elle est coupable ou victime. On voit bien d'emblée qu'elle est victime. Mais comment une justice civilisée a-t-elle pu juger une gamine sans se dire, mais enfin, elle doit porter des valises énormes, c'est pas possible. C'est incroyable.
Oui, c'est incroyable. Et c'est d'ailleurs cette question que s'est posée Gita Sereny.
Mais oui.
Gita Sereny déclare qu'en fait, elle a voulu utiliser Mary Bell et sa vie pour dénoncer le système judiciaire en Angleterre concernant les mineurs. Et effectivement, on voit que c'est absolument incroyable, c'est-à-dire que ces enfants, les deux petites filles, d'ailleurs de 11 et 13 ans, sont jugées dans un tribunal pour adultes. Et Gita Sereny va mettre en évidence la série de dysfonctionnements qui existent d'ailleurs toujours, bien qu'il y ait eu depuis de nombreuses lois qui ont essayé de changer ce système. Le système anglais est de loin le plus répressif. C'est en Angleterre qu'on connaît le taux de délinquance et de récidive le plus fort de tous les pays d'Europe. Donc c'est le système le pire. Voilà.
Quel est, pour le coup, je prends la balle au bon, le système français par rapport à ses enfants?
Alors, le système français, d'abord l'âge auquel un enfant est responsable pénalement. Il est de 10 ans en Angleterre, c'est l'âge le plus bas. En France, l'âge est de 13 ans. En Italie, il est de 15 ans. Et en Allemagne et dans d'autres pays, il est de 14 ans. Autrement dit, un enfant meurtrier en France, d'ailleurs, je n'en connais pas, il y en a peut-être, mais je n'en connais pas, en dessous de l'âge de 13 ans, ne passerait pas en jugement, ne serait pas responsable pénalement. Donc ça, c'est une première différence. Ensuite, en France, il y a des tribunaux pour enfants, distincts des tribunaux pour adultes. Alors, c'est également le cas en Angleterre, sauf pour les crimes les plus abominables. Quand le crime est, abominable, comme le crime d'un enfant par un enfant qui tue un autre enfant, eh bien c'est un tribunal pour adultes qui juge ces enfants. Donc effectivement, c'est différent en France. Et puis, si vous voulez, il y a aussi l'idée que... alors, ce que raconte la suite de l'histoire, c'est que Mary Bell n'a jamais été traitée, n'a jamais eu un traitement psychiatrique. Lorsqu'elle a été libérée, rien n'avait été préparé. C'est une série de dysfonctionnements absolument incroyables qui est racontée à travers une histoire, elle aussi, assez incroyable.
Ça veut dire que la justice n'ose pas regarder en face les dérives du monde, le malheur du monde, c'est ça? Ça lui fait. Elle se dit, c'est pas possible que la réalité soit celle-là?
C'est peut-être pas tout à fait ça, c'est-à-dire que d'un côté, il y a une mère, on a longtemps considéré qu'une mère ne peut pas faire ça, hein, une mère ne peut pas tuer ses enfants, etc., etc. Ensuite, mais concernant les enfants, l'attitude est différente, c'est-à-dire un enfant qui fait ça est considéré comme un monstre. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une différence de perception par la société entre une mère ne pourrait pas faire ça et un enfant serait un monstre. Voilà, est-ce que Gita Sereny, c'est quelqu'un qui est au moins aussi intéressant pour d'autres raisons que Mary Bell, c'est quelqu'un qui s'interroge à la fois sur les racines du mal et sur la culpabilité que peut ressentir quelqu'un qui fait un acte comme un crime. Voilà, je pense que c'est ça qui l'a motivé, et non seulement par rapport à Mary Bell, mais aussi par rapport aux dignitaires nazis qu'elle a interrogé.
C'est ça qui est frappant, on se dit, c'est bon, ça n'a rien à voir entre des dignitaires nazis, une gamine de 10 ans, c'est complètement fou, c'est cette galerie de personnages. Mais c'est une explication, les racines du mal, quoi.
Oui, elle se pose la question. Elle n'essaie pas forcément d'y répondre, parce qu'elle sait que c'est complexe. Mais elle cherche la racine du mal. Pour les enfants, son hypothèse, et c'est ce qu'elle a cherché à vérifier avec Mary Bell, son hypothèse, c'est un enfant serait naturellement bon et peut être perverti par sa famille et par la société. Et évidemment, elle a trouvé toutes les réponses qu'elle cherchait à ces questions. Pour les dignitaires nazis, c'est un petit peu différent, puisqu'elle les rencontre après le procès de Nuremberg, où ces dignitaires nazis ont été reconnus coupables, condamnés, etc., etc. Et ce qu'elle cherche avec eux, c'est arrivent-ils à un moment ou à un autre de leur vie à se sentir coupables. Mais on voit que c'est aussi ce qu'elle cherche avec... Enfin, c'est pas ce qu'elle cherche avec Mary Bell, mais c'est ce qu'elle a trouvé avec Mary Bell. C'est à quel moment s'est-elle finalement sentie coupable. Et Mary Bell l'explique très bien, une première fois à 19 ans, et essentiellement quand elle-même a eu une petite fille.
Oui, et quand elle a 38 ans notamment. Alors, Gita Sereny dit Mary Bell n'est pas une enfant meurtrière, mais une enfant qui a tué. J'imagine que vous êtes tout à fait d'accord avec ce distinguo.
Exactement, de la même façon qu'un enfant qui vole n'est pas un voleur, c'est un enfant qui a volé.
Exactement. Alors, on a dit que Mary Bell se répétait toujours cette chanson Puppets on String. On en a parlé, on va écouter au moins un extrait, un bout de cette chanson pour savoir de quoi il s'agit. Then I'll lose.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Caroline Aliachef, bien sûr, on se pose la question de savoir ce que Mary Bell est devenue. On sait qu'elle vit avec le père de son enfant et qu'elle a changé de ville, qu'elle va avoir autour de 60 ans. On n'en sait pas plus, je crois.
Écoutez, en tout cas, moi, je n'en sais pas plus. Très sincèrement, j'aimerais aussi savoir ce qui est devenu Norma Bell.
Eh oui,
c'est vrai. Curieusement, porte le même nom, porte le même patronyme, bien qu'elle ne soit absolument pas de la même famille. Voilà, moi, j'ai cette curiosité-là aussi, mais ça restera sous forme de curiosité, je pense.
Mais quel regard vous posez sur la situation de Norma et le fait qu'elle ait été acquittée ?
Écoutez, je ne sais pas du tout comment elle a pu vivre ça. J'ai l'impression que ça a été... C'était vraiment une impression, car je ne sais rien. Ça a été totalement enfoui, et on a considéré donc qu'elle n'y était pour rien, alors que manifestement, elle a tout à fait participé, et pour des raisons... Elle a pas, de mon point de vue, elle n'a pas seulement été entraînée. Effectivement, elle était, comme on dit, moins intelligente, mais elle était quand même... elle avait 2 ans de plus, et voilà, elle a très clairement participé. Maintenant, encore une fois, moi, j'aimerais bien savoir ce qu'elle est devenue, elle aussi.
nous aussi, figurez-vous.
Bon. Oui.
Finalement.
En même temps, si vous voulez, la curiosité des médias, des médias anglais, a tellement empoisonné la vie de Mary Bell qu'on a plutôt envie, de les laisser tranquilles.
Au bout du compte, qu'est-ce que... On va pas tout reprendre, bien sûr, mais qu'est-ce que nous dit cette histoire de l'enfant dans la justice, dans les sociétés occidentales ? Qu'est-ce que vous avez envie de retenir, vous ? Principalement.
Écoutez, ce que cette histoire-là raconte, c'est les incroyables dysfonctionnements de la justice anglaise et de la façon dont ils traitent les enfants mineurs, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Donc voilà, ça dit ça d'une part, ça dit d'autre chose. Ça dit aussi que effectivement un enfant peut être perverti par sa famille et par la société. Mais pour autant, ce que je pense personnellement, c'est qu'il n'est pas seulement le pur produit de son éducation, qu'il a une forme, enfin, pas de responsabilité au sens où il serait coupable de ce qui lui est arrivé, mais au sens où il participe à ce qui lui est arrivé. Parce que quand on dit un enfant est perverti par sa famille, on lui enlève un peu de sa personnalité. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, il serait une marionnette, il serait une pure marionnette. Alors je ne
pense
pas ça des
enfants. Parce qu'il peut le protéger dans une stratégie de défense, ça peut le protéger aussi.
Oui, absolument. En tout cas, il a
sa part.
Et c'est vraiment lui reconnaître son humanité. C'est pas du tout le considérer comme coupable de ce qui lui serait arrivé. Voilà.
Très bien. Bon, on n'a malheureusement pas le temps de continuer. Je voulais la parole des enfants. Bon, écoutez, on aura l'occasion peut-être à travers une autre histoire d'en parler. Enfin, on a fait déjà un tour de la position des enfants, de la place des enfants dans la justice. C'était une affaire sensible et compliquée. Merci infiniment,
absolument,
Caroline Aliachef. Merci, au
Merci
revoir.
Merci à vous. Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le cas Mary Bell, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florent Dorimini. Et pour être un peu précis, c'est Florian Dorimini.